L'ascenseur me dépose sur un grand palier blanc qui s'éclaire tout seul. À gauche, une double porte est marquée « Bienvenue aux bénévoles ». Fermée. Je tape, en vain. De l'autre côté du palier, une vaste salle bleu pâle s'intitule « Musée ». Je m'approche des grandes boîtes en bois vitré où s'alignent les 68 miraculés officiels, diplômés par leur évêque, et une sélection des 7000 cas de guérison attestés par la médecine et rejetés par l'Église, car elle ne répondait pas aux critères administratifs. Encadré dans un coin, le règlement intérieur précise « A. Pathologie incurable, uniquement lésionnelle ou organique. B. Diagnostic certain, précis, pronostic fatal. C. Guérison soudaine, instantanée, définitive, avec recul. » Je regarde les photos, parcours les CV des élus, étudie ceux des recalés. Toutes les maladies sont représentées, des classiques aux plus rares, des oubliés aux contemporaines. Les miraculés n'ont pas de profil particulier. Enfants, retraités, paysans, artistes, fonctionnaires, militaires, religieuses, garagistes. Beaucoup étaient croyants, mais certains non, et quelques-uns dans le coma. La plupart des guérisons ont eu lieu en piscine, mais pas toutes, comme celle de Pierre de Ruder, un Belge. La jambe gauche broyée, grabataire depuis 8 ans, il se traîne sur ses béquilles le 7 avril 1875 jusqu'à la réplique de la grotte de Lourdes qu'on vient de construire dans son village flamand. Là, il retrouve d'un coup l'usage de sa jambe et tombe à genoux. Le lendemain, les médecins constatent que la gangrène a disparu, que les plaies sont cicatrisées et les os subitement reconstitués. Quelques jours après, il reprend son travail d'ouvrier agricole. Quand il meurt, 23 ans plus tard, on décide une autopsie qui révèle le tracé d'une fracture ancienne, de très longue durée, ressoudée spontanément, rendant les os de la jambe gauche absolument égaux à ceux de la jambe droite. Le moulage en cuivre des deux tibias figure dans la vitrine, à côté de la bonne bouille de leur propriétaire. Le côté bricolage du miracle est peut-être ce qui m'impressionne le plus. Souvent, les os et les organes se rétablissent dans l'urgence, mais un peu n'importe comment. Le chasseur alpin Vittorio Micheli, homologué numéro 63, avait la hanche détruite par un cancer. Sa jambe n'était plus reliée au bassin que par des lambeaux de chair. Le 24 mai 1963, plongé dans la piscine avec son plâtre, il sent son articulation se reconstruire. Mais en plusieurs temps, ainsi que le montrent les radios, une réparation de fortune a d'abord fabriqué de l'os pour raccrocher le fémur au bassin, comme un raccord provisoire posé par un plombier. Puis, au fil des mois, l'apparence de la hanche est devenue conforme à l'anatomie. Comme si la volonté divine, ou la nature, avait à cœur de se plier aux critères de vitesse exigés par l'Église pour reconnaître le miracle. Un bidouillage express afin que le sujet puisse marcher. Ensuite, on prend le temps de peaufiner le côté esthétique pour rentrer dans la norme. Souvent aussi, la fonction se rétablit avant l'organe. Marie Biret, miraculée numéro 37, retrouve la vue pendant un pèlerinage et lit le journal à ses médecins, alors que la cause de sa cécité, atrophie papillaire bilatérale, ne disparaîtra que 2 mois plus tard. Même chose pour le 45, Francis Pascal, qui cesse brusquement d'être aveugle à 4 ans, en 1938. Le docteur qui l'examine lui dit que c'est impossible, son nerf optique est trop gravement lésé. « T'as une tache sur ta cravate », lui répond l'enfant. Et certains sont même sauvés 2 fois, comme Sœur Sainte Béatrix, née Rosalie Vildier, qui perd sa tuberculose dans la piscine le 31 août 1904 et revient dire merci l'année suivante. En reconnaissance de sa gratitude, elle est guérie de sa myopie. La fringale. Je me retourne sur le jeune homme qui vient d'entrer, un flacon à la main. Il désigne d'un geste circulaire de son chiffon jaune les miraculés sous verre. Le seul point commun entre tous, précise-t-il en envoyant 3 giclées d'Ajax vitre de 1860 à 1875, c'est qu'une fois guéris, ils sont pris d'une fringale énorme. Ils peuvent bouffer des steaks et des choucroutes pendant des heures, même les perfusés qui n'ont rien avalé depuis des mois. Comme si toute l'énergie disponible dans le corps avait été pompée d'un coup. J'acquiesce. C'est la théorie d'Irwin Glasner, les molécules messagères, ces milliards d'hormones et de neurotransmetteurs que l'hypophyse enverrait vers la zone malade pour modifier la structure cellulaire. Mais si c'est là le mode d'emploi du miracle, pourquoi tout le monde n'est-il pas guéri dès que la demande est faite ? Le laveur de carreaux hausse les épaules. On peut tous apprendre à grimper et vouloir vaincre l'Everest, ça ne veut pas dire qu'on atteindra le sommet. « C'est votre première fois ?» ajoute-t-il en désignant mes bretelles de corde. « J'aimerais bien, mais je ne trouve pas de malade. Vous avez un hôpital en ville. C'est pas le moment des pèlerinages, mais il n'y a pas de saison pour être malade. » Il essuie la vitrine d'un mouvement rotatif plein de respect, vérifie la transparence en se décalant, passe aux années suivantes. « Vous savez pourquoi elle n'est pas avec eux, Sainte Bernadette ?» reprend-il en désignant l'alignement des photos. « Elle était aux premières loges pourtant, avec la Vierge qui lui a apparu 18 fois. Mais elle ne lui a rien demandé pour elle. Du coup, elle a souffert le martyre toute sa vie. Et en échange, son cadavre s'est conservé comme au premier jour. Ça lui fait une belle jambe. En plus, comme c'est un miracle à titre posthume, l'Église n'a pas voulu le reconnaître. » Je lui demande s'il a été guéri, lui-même. Il dit qu'il n'est pas malade, mais que ça n'empêche pas de se sentir concerné en tant que Lourdais.
Fin du 7e disque.